Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Vers un équilibre digital » de la Haute École Léonard de Vinci. Depuis nos studios, je vous accompagne dans cet épisode sur l'impact environnemental des équipements numériques lors de leur phase de production. Nous allons essayer avec mon invité de vous donner des pistes de solutions afin d'adopter de bons gestes et de bonnes pratiques pour un usage raisonné et durable des outils numériques qui nous entourent. Installez-vous confortablement et plongez dans le monde passionnant de l'équilibre digital. Aujourd'hui, nous rencontrons Jules Delcon de l'Institut belge du numérique responsable. Bonjour Jules.
Bonjour.
Jules, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices ?
Oui, je m'appelle Jules, j'ai 28 ans. J'ai fait des études en économie et gestion à l'UC Louvain. Et puis j'ai fait un master en CSR, ou en français RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc en bref, c'est comment est-ce qu'on fait du développement durable dans les organisations. À titre individuel, c'est facile, c'est des bonnes pratiques. Je prends moins l'avion, je mange un peu moins de viande, etc. Je prends un peu plus le vélo. Mais en fait, on se rend compte que pour les organisations, ça nécessite une stratégie, c'est pas si simple. Il faut parler avec les départements, il faut parler avec les ressources humaines, avec les achats, avec la stratégie. Donc on se rend compte que pour une organisation, ça nécessite forcément quelque chose de plus managérial, on va dire. Et en fait, je suis tombé sur un sujet Sustainability and Digitalization Friend of Foods. Donc en gros, c'était l'idée de dire, au final, est-ce que la digitalisation et le développement durable, est-ce qu'ils sont copains ou pas copains ? C'était proposé par un professeur qui donnait des cours de supply chain. Là, j'étais assez surpris. Je me dis, mais en fait, quoi ? Le numérique et le développement durable sont pas copains ? Donc j'ai lu un petit peu le sujet. Ça m'a intéressé assez vite. J'étais assez, on va dire, féru de technologie. Donc j'aimais bien les dernières cartes graphiques qui sortent, les écrans, les smartphones, la rapidité, etc. Et donc je suis un peu tombé de ma chaise parce que je me suis rendu compte que le numérique avait un impact sur l'environnement. Et donc j'ai fait un mémoire sur ce qu'on appelle la sobriété numérique, ou en tout cas comment on réduit les impacts environnementaux du numérique. Et donc c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans le sujet, et j'ai interviewé mon boss actuel qui est le directeur de l'Institut belge du numérique responsable dans le cadre de mon mémoire. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dedans.
D'accord, donc forcément aujourd'hui tu viens nous parler de 16 impacts environnementaux liés à la production des équipements numériques. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Quels sont ces impacts ?
Effectivement, on parle de 16 impacts, on ne parle pas d'un seul impact numérique. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent habitué pour l'instant à l'empreinte carbone. On est concentré sur un seul indicateur, mais en fait, on n'a pas que ça. On a la consommation d'énergie, on a la consommation forcément de ressources, on consomme de l'eau, on consomme des matières premières, et puis on crée des déchets. Et donc, tout ça fait qu'en fait, on a plusieurs types d'impacts. Et l'objectif, c'est de prendre en compte tous les impacts qu'on va avoir avec les équipements numériques ou avec le numérique de façon générale, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les réduire, à titre individuel ou pour les organisations.
Est-ce que, Jules, tu pourrais nous donner un exemple concret de ces impacts sur la production ?
Donc on va prendre l'exemple du smartphone. Donc effectivement, avant de pouvoir utiliser mon smartphone, je vais devoir le produire. Si on regarde la vie d'un smartphone, on va d'abord produire le smartphone, ensuite on va l'utiliser et puis on aura la fin de vie. Et en fait, on se rend compte que la majorité de l'impact sur le cycle de vie, c'est la production. Donc il faut vraiment en parler parce que malheureusement, les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe avant cette phase d'utilisation.
Quelle part représente cette phase de production d'un équipement dans cet impact ?
Alors ça dépend. Pourquoi ? Parce que en fait, l'impact à la production, on va dire, il est fini. Une fois que l'équipement est produit, en fait, cette valeur ne bouge pas. Mais par contre, les proportions vont changer en fonction du temps d'utilisation. C'est-à-dire qu'une fois que j'utilise mon smartphone, il y a quand même une dépense d'énergie pour charger la batterie. Si j'ai utilisé mon smartphone pendant 2 ans ou pendant 5 ans, les ordres de grandeur sont pas les mêmes. Les proportions sont pas les mêmes. En règle générale, en moyenne, on estime que pour les équipements classiques, tablettes, smartphones, laptops, on tourne autour des 3/4, donc 70 à 80% de l'impact, en tout cas carbone, qui est à la production. De nouveau, pareil, si on s'intéresse aux ressources, une majorité des ressources sont consommées forcément pour le produire. Donc une majorité des impacts vient de la production.
Pourquoi une majorité de ces impacts vient de la production ?
Donc qu'est-ce qui se passe pour produire mon smartphone ? Déjà, il faut savoir que c'est bourré de technologies, on va avoir énormément de matières premières et il va falloir les chercher. Donc là, on est sur de l'extraction minière. Donc si j'ai besoin de cobalt ou de lithium pour ma batterie, si j'ai besoin de terres rares pour mon écran, si j'ai besoin de silicium, d'or pour la carte mère et j'en passe, je vais devoir aller chercher ces matières premières qui sont présentes dans le sol. Donc là, on est sur de l'extraction. Donc je vais avoir des excavatrices, c'est quand même des grosses machines, on va aller creuser et on va aller chercher ces matières premières. Ensuite, il faut bien se rendre compte qu'à l'instar d'un lingot d'or, on n'a pas un lingot d'or comme ça dans le sol. Donc ces matières premières, elles sont présentes dans des proportions infimes, dans des petites proportions, et donc il va falloir avoir des procédés physiques, mécaniques et chimiques pour séparer les matières premières, les métaux, des roches. Ok, donc rien que là, on va avoir une grosse dépense d'énergie, on va utiliser beaucoup d'énergie pour purifier ces métaux, on va utiliser de l'eau aussi, ça va entraîner une pollution, il faut bien se rendre compte qu'il y a des éléments qui sont toxiques dans le sol. Si on s'intéresse au nucléaire, l'uranium, pour les centrales nucléaires, on va pas le chercher n'importe où, on va le chercher dans le sol, donc ça veut dire que dans le sol, on a des éléments radioactifs. Donc au niveau déjà de l'extraction minière, on a pas mal de déchets qui sont vachement dangereux, et on pollue malheureusement aussi le sol, l'air et l'eau. Ça, c'est la première chose. Une fois que j'ai mes matières premières, il va falloir créer les composantes. Si on regarde, par exemple, si on s'intéresse à une puce informatique, un processeur, c'est vraiment de la technologie de pointe et on utilise des procédés industriels qui sont extrêmement techniques et qui, de nouveau, nécessitent beaucoup d'énergie. Et donc, on remarque qu'en fait, avant même de pouvoir assembler les composants de notre smartphone, la majeure partie des impacts, c'était l'extraction des matières premières et leur purification et le fait de les transformer en composantes électroniques. Ça, c'est vraiment la majeure partie de nos impacts, en fait. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Ensuite, forcément, on a l'assemblage sur des usines, par exemple, pas mal en Asie, sur des chaînes d'assemblage. Et puis, ça va être le transport et ça arrive en magasin et là, on va avoir l'utilisation. Il faut se rendre compte que si je prends l'exemple d'un smartphone classique, admettons, je prends l'iPhone 11, c'est les statistiques qu'Apple donne. Alors, c'est pas pour cracher sur Apple, c'est vraiment qu'eux, au moins, ils donnent les chiffres et donnent les ordres de grandeur. C'est très intéressant. Apple nous apprend que sur un iPhone 11, si on garde un iPhone 11 pendant 3 ans, en sachant que la moyenne d'utilisation européenne est à 2 ans et demi quand même sur le smartphone, selon les derniers chiffres. Si je le garde 3 ans, 80% de mon impact CO2, c'est la production. Ensuite, j'ai environ 17% pour l'usage, parce que forcément, il faut le charger. Et puis, il reste des cacahuètes, hein, donc ça va être pour le transport, par exemple, j'ai 3% et j'ai moins d'1% pour la fin de vie. Donc, il faut bien se rendre compte que même si on entend beaucoup que, le transport, ça a un impact, par exemple, pour le transport des marchandises alimentaires, c'est un impact. Mais en fait, dans le cadre du numérique et dans le cadre d'un smartphone, c'est extrêmement minime, en fait. Donc, par exemple, on peut entendre des entreprises qui nous disent, on utilise un peu moins l'avion pour amener les marchandises, les équipements, ou alors on met plus de plastique dans les emballages des smartphones. On se trompe de combat, en fait. Le combat, il est sur éviter de produire des nouveaux équipements. Et donc, premier levier, il est assez simple, c'est allonger la durée de vie des équipements au maximum. Ça, c'est le vrai levier. La meilleure façon de réduire l'impact de la production de nos équipements, c'est d'éviter de les produire.
Et donc, pour éviter les produire, il faut essayer de les garder le plus longtemps possible. Parmi les leviers d'action à engager et à amplifier en tant que consommateur, dès aujourd'hui, c'est bien celui d'un usage plus sobre en carbone et en ressources.
En fait, c'est prendre conscience qu'on est vraiment sur des ressources qui sont limitées, qui a un impact pour aller chercher ces matières premières, et que malheureusement, si on change d'équipement trop vite, en fait, c'est vraiment un gaspillage, en fait. Pourquoi est-ce que je changerais de smartphone si il fonctionne toujours ? Alors malheureusement, on a plein de soucis avec de l'obsolescence culturelle où on nous incite à acheter, on est quand même dans une société de consommation, donc l'impact du marketing est assez conséquent, et des marques comme Samsung, des marques comme Apple, ou même à l'époque comme Nokia, ils n'ont pas forcément d'intérêt financier à nous dire que le numérique a un impact et qu'il faut absolument pas acheter le dernier iPhone qui sort. Ou en tout cas, l'idée c'est toujours de réfléchir en fonction du besoin. Le numérique est super, il est là pour rester et c'est un outil génial, que ce soit pour la pédagogie, pour l'accès à l'information, pour échanger avec ses proches, c'est génial. Le tout c'est de se dire, mais comment est-ce que je profite de cette magnifique invention tout en réduisant mes impacts ? Et du coup, il n'y a rien à faire, la production c'est le plus gros levier.
Oui, mais en tant que consommateur, je ne peux pas avoir d'impact direct sur l'extraction des métaux et leur assemblage.
Ça va dépendre en fait de nos choix de consommation. Je vais prendre l'exemple, et j'aime bien prendre l'exemple de Fairphone. Fairphone, ils ont décidé de faire les choses autrement. Ça veut dire que Fairphone, ils ont dit, nous on va, au niveau de la conception, on va déjà réfléchir à ce que le smartphone il soit facilement réparable. Une fois que j'ai une casse, je change juste une composante. Je ne remplace pas tout le smartphone. Donc là, on évite déjà une bonne partie du gaspillage. Ensuite, c'est des équipements qui sont plus robustes, qui sont conçus pour durer un peu plus longtemps. Donc pareil, au niveau du logiciel, ils font des efforts pour pas que ce soit obsolète et qu'on doive changer tous les 3 ans parce que les composantes ne tiennent pas la route.
Donc on doit porter notre attention sur la réparabilité et l'allongement de la durée de vie de nos équipements et la qualité des matières premières.
On va retrouver pas mal de marques qui malheureusement vont proposer des smartphones pas très chers, mais vous allez voir que la batterie elle tient peut-être moins longtemps. Donc il y a clairement au niveau de la consommation quelque chose à faire. L'idée c'est toujours de réfléchir en fait à son besoin. Je vais donner un exemple, j'ai un smartphone qui a une très bonne batterie et qui est pas très réparable mais qui est extrêmement robuste, donc il casse pas, donc j'ai pas besoin de le réparer, donc ça m'arrange très bien. Je vais prendre l'exemple de ma sœur, l'iPhone 14. Mais ma sœur elle fait de la photo, elle a pas d'appareil photo. Elle réduit en fait le nombre d'équipements électroniques qu'elle a parce qu'elle a, on va dire, un objet multifonction. Elle a un smartphone qui lui sert à écouter de la musique comme un baladeur. On n'a plus de baladeur aujourd'hui. Et en même temps, ça lui sert de smartphone. Et en même temps, ça lui sert d'appareil photo. Et donc, elle minimise en fait le nombre d'équipements qu'elle a. Et en plus, ça fait sens parce qu'elle a besoin d'un appareil de très bonne qualité. Moi, sur mon smartphone, j'ai pas un très bon appareil photo. Donc, il y a rien à faire. Quand on est avec les copains et qu'on fait une photo, c'est pas avec mon appareil qu'on le fait. Et je vis très très bien avec ça.
On a parlé d'un type d'outil numérique, principalement le smartphone. Où est-ce que je peux trouver une information fiable en tant que consommateur sur des équipements électroniques et électriques plus durables, plus robustes, pour pouvoir faire un choix raisonné et durable par rapport à l'équipement dont j'ai besoin ?
Alors, c'est ce qu'on appelle souvent les savvy customers. Donc, c'est les consommateurs qui s'informent sur ce qu'ils vont acheter. En fait, l'information, elle est disponible. Si je prends la réparabilité, il y a un indice de réparabilité. Donc, ça existe pour l'instant en France, ça arrive en Belgique, ça arrive à l'Europe. Donc, si vous allez sur fnac.fr, sans faire de la pub pour Fnac, vous allez avoir l'indice de réparabilité sur, par exemple, les smartphones. Et sur Fnac.be, pas du tout. Mais c'est exactement la même page. La seule chose qui change, c'est que vous avez l'indice de réparabilité sur les sites français. Donc on va avoir l'indice de réparabilité. Et puis ensuite, on va avoir, il n'y a rien à faire. Certaines marques sont connues pour avoir des équipements de meilleure qualité. Certaines marques sont connues pour avoir des équipements qui cassent un peu moins vite. Certaines marques sont connues aussi pour utiliser des techniques de robustesse des équipements. On peut penser par exemple à Gorilla Glass. C'est une technologie qui est présente sur plusieurs types de smartphones et dans plusieurs marques. Ça veut dire que chez Samsung, chez Xiaomi, pour iPhone, chez Fairphone, vous allez retrouver sur certains modèles, dans certaines gammes, ce qu'on appelle la technologie Gorilla Glass, donc en gros c'est du verre trempé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écran il casse moins vite. On va avoir des marques qui vous proposent de protéger vos équipements, et donc certaines marques proposent soit des équipements qui sont conçus pour ne pas casser, soit avec des housses, et on vous donne une housse, donc rien que ça c'est super important. Et puis c'est trouver les bons sites, donc il y a par exemple l'indice de protection, donc c'est par exemple, ça va être IP68, IP indice de protection. Un chiffre, ça va être pour les liquides, l'autre, ça va être pour les solides. Donc, il y en a un qui va nous indiquer que ça peut tomber dans l'eau, ça ne va pas casser. L'autre va nous expliquer que s'il y a du sable, ça ne va pas venir s'incruster et casser la machine. Donc, ça, c'est super intéressant. Et donc, il y a des tests. Moi, par exemple, sur mon laptop, il y a un standard militaire, MIL-STD, donc des équipements qui sont conçus pour résister, par exemple, au choc. C'est tout bête, mais le fait que ça reste au choc, l'équipement va durer plus longtemps. Et donc, on ne doit pas produire un nouvel équipement parce que le mien, il a cassé.
Et comment acquérir cette connaissance des termes que je vais retrouver sur les descriptions de ces équipements, comme l'IP dont tu viens de parler? Comment procéder?
L'idée, c'est de se dire, quel est mon objectif et comment j'y arrive? Donc, si l'objectif, c'est de garder le plus longtemps votre smartphone, cherchez par exemple sur notre copain Google, parce que de nouveau, le numérique, c'est un super outil. Tiens, comment est-ce que je peux garantir que je vais garder mon équipement le plus longtemps possible? Et donc là, vous allez tomber sur des articles en disant, protégez-le. Assurez-vous que ce soit réparable. Assurez-vous d'acheter de bonne qualité. Je vais par exemple prendre un exemple. Quand j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup de moyens et donc j'achetais des GSM qui étaient pas chers. Et malheureusement, les GSM pas chers étaient de mauvaise qualité, cassaient assez vite. Donc en fait, in fine, sur le long terme, ça m'a coûté plus de sous d'acheter des mauvais GSM pas chers trop de fois. Et j'ai gaspillé énormément de matières premières avec ça, entre guillemets. Donc il faut voir en fonction de votre objectif qu'est-ce qu'on achète. Et puis de nouveau, réfléchir à son besoin. Ça, c'est super important. Et donc on va avoir par exemple, il y a un site que j'aime bien qui s'appelle GSM Arena. Qui a un outil qui s'appelle le Phone Finder. Donc je vais sur le site et je dis, moi j'aimerais bien par exemple que mon smartphone il ait une prise jack parce que j'ai un baladeur avec un câble et que j'ai pas envie d'acheter un nouvel équipement électronique qui marche sans fil avec ou je dois racheter un casque Bluetooth. Donc j'aimerais bien que mon prochain smartphone il ait un câble jack. Ok. J'aimerais bien qu'il ait une batterie minimum de autant. J'aimerais bien qu'il ait quand même un minimum de 4 Go de RAM, admettons, pour être sûr qu'il va tenir aussi dans le temps et qu'il va pas subir des ralentissements trop vite. Et donc on va pouvoir sur le Phone Finder indiquer plein de trucs en disant, moi j'aimerais bien une résolution de minimum autant, un écran de telle taille. J'ai besoin de faire des photos, donc j'aimerais bien que l'appareil photo au niveau du gros objectif, pas du selfie, au moins de telle qualité. Et là, on va avoir une liste. Et je peux aussi avoir l'indice de protection. Donc c'est génial, je vais avoir une liste d'appareils qui correspondent à mon besoin. Et là, du coup, je vais pouvoir faire un choix. Le gros problème, en fait, aujourd'hui, c'est que dans le numérique, par exemple, on va mal dimensionner nos besoins. Je vais prendre un exemple. J'ai une super coloc qui a un laptop. Et je regarde son laptop et je vois qu'elle a une carte graphique de dingue. Donc, j'adore les jeux vidéo. Et donc, je dis, tu joues à des jeux vidéo? Elle me dit non, pas du tout. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a acheté une machine sans savoir. Elle a acheté une machine sûrement beaucoup trop chère, parce que les cartes graphiques, ça coûte cher. Et en plus, c'est des matières premières spécifiques, c'est des puces spécifiques, donc il y a un impact plus conséquent d'avoir des machines qui ont des capacités de traitement plus élevées, et donc forcément elle ne le savait pas, mais elle aurait pu diviser par deux le prix de son laptop, et en fait elle n'a pas besoin de cette composante-là.
Elle ne savait pas forcément quel était son besoin, c'est une des problématiques aujourd'hui. Comment identifier son besoin ?
Oui, alors là, généralement, il vaut mieux se faire aider. On a toujours un copain qui se connaît un peu, ou une copine qui se connaît un peu plus en informatique, qui aime bien ça, qui s'y intéresse, et donc on peut lui demander. Moi, je conseille de faire, ça marche très très bien. Je suis, par exemple, le support technique pour mes parents et mes grands-parents. Quand ma maman, elle doit acheter un smartphone, elle me dit, mais qu'est-ce que j'achète? Et moi, je peux du coup l'aider en lui disant, fais attention, ça, tu vas pas le garder longtemps, ça sera pas utile, ça va être trop cher pour toi. Attention, maman, t'aimes bien faire des photos, et donc là, je sais qu'il n'y a pas assez de stockage. Si je prends l'exemple de l'iPhone, on peut passer du simple au double en termes d'impact carbone en fonction du stockage. Si vous regardez les iPhone 256, ou 1 Tera, on se rend compte qu'on va parfois du simple au double en termes de l'impact. Et donc, quel stockage je prends en fonction de ce que... Voilà.
Pour revenir à une vision plus méta de cet impact, quelle est l'évolution de cet impact environnemental lors de la phase de production des équipements électroniques et électriques?
Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en fait, on s'équipe de plus en plus. Aujourd'hui, on estime qu'on est environ à 40 milliards d'équipements utilisateurs. On est nombreux sur Terre, on est quand même 8 milliards maintenant. Et donc, si on compte un petit peu, en fait, on arrive à 8 équipements par personne en moyenne. C'est une moyenne mondiale. Donc, on a des personnes qui sont extrêmement équipées. Alors moi, j'ai par exemple, je suis pas le plus équipé, mais j'ai un smartphone, j'ai un laptop, J'ai un casque Bluetooth, un baffle Bluetooth. Je peux rajouter peut-être l'imprimante à la maison qu'on partage quand même. Il y a aussi la télé. Je suis déjà à 6. Je peux rajouter un écran d'ordinateur que j'ai en plus. J'ai pas de montre connectée, j'ai pas de frigo intelligent. Mais en fait, on se rend vite compte que le nombre, il explose. Peut-être qu'on a une console de jeu, peut-être qu'on a une Alexa, hein, donc les enceintes. Et en fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et donc, ce qu'on remarque depuis plusieurs années, c'est qu'on s'équipe de plus en plus. On est en pleine digitalisation, que ce soit dans les pays en voie de développement ou dans les pays développés aussi. On a de plus en plus d'équipements par personne. Et malheureusement, on les garde de moins en moins longtemps. Donc, c'est ça la tendance.
L'une des solutions est la question de la sensibilisation, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce podcast. Si je résume ce que tu as dit précédemment, les questionnements à avoir tournent autour de est-ce que j'ai vraiment besoin de cet équipement ? Finalement, de quoi ai-je besoin ? D'arriver à identifier ce besoin et de se demander finalement quelle est la source d'information vers laquelle je vais me tourner pour trouver un équipement qui est robuste, qui a un indice de réparabilité important. À ce titre, aujourd'hui, tu représentes l'ISIT. Quel est le rôle de l'ISIT ? On parle de ce cycle de vie, de la production. Quel est le rôle de l'ISIT par rapport à cette phase du cycle de vie d'un équipement ? À qui s'adresse-t-elle ?
Mais nous, justement, vu qu'on a une bonne connaissance des impacts environnementaux du numérique, et que les entreprises aujourd'hui dans le secteur tertiaire, hein, de finance, bancaire, éducation, services publics, communication, dans le secteur tertiaire, on est tous les jours devant un ordinateur, en tout cas on est extrêmement équipé, on est fortement digitalisé, donc nous on est là pour aider ces organisations à dire « Ok, le numérique c'est un outil et c'est génial, par contre vous avez des choix à faire pour limiter les impacts négatifs. » Et donc dans la façon, dans votre rapport au numérique et dans votre stratégie d'entreprise, pour le support de vos opérations, ben, vous utilisez le numérique, mais quel choix on va faire ? On va faire des choix pour limiter l'impact des usages, limiter l'impact des sites web, limiter l'impact du parc informatique. Et donc sur la partie parc informatique, il faut bien se rendre compte que si vous avez 5000 employés, bah vous avez potentiellement 5000 laptops, 5000 smartphones, combien d'écrans, combien d'imprimantes, combien de projecteurs. Et donc tout ça s'additionne. Et donc nous, on est là pour aider les organisations à comprendre la problématique, d'où viennent les impacts. Ensuite, mesurer les impacts, parce qu'on n'achète pas tous les mêmes équipements, on ne les garde pas tous autant de temps. On va avoir des organisations qui sont très frugales et qui disent bah, « moi, mon matériel, j'en changerai quand il casse hein, ». Et donc, on garde les équipements 6, 7, 8 ans. Et puis, on va aussi avoir des entreprises qui disent « nous, on change d'équipement, par exemple, de parc informatique pour les laptops, on change tous les 3-4 ans ». Là-dessus, il faut bien se rendre compte que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Vous avez des entreprises qui ont des profils techniques, des développeurs, des personnes qui font du montage vidéo. Et malheureusement, ces personnes-là, effectivement, ont besoin de changer plus rapidement leurs équipements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être qu'eux changent tous les 2 ans, mais c'est parce que ça répond à un besoin. La question qui se pose alors, c'est, mais en fait, ces équipements, est-ce que ça devient un déchet ou est-ce qu'on les donne à la personne, à la comptabilité ou à l'administratif qui n'a pas besoin d'une machine à la pointe ? Et donc, on est là pour amener plein de bonnes pratiques pour réduire l'impact, par exemple, de son parc informatique. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a une marge de manœuvre limitée. Par exemple, fiscalement, c'est intéressant d'amortir son matériel sur 4 ans. Si vous allez demander aux entreprises, elles vont vous dire qu'elles gardent leur laptop environ 3, 4, 5 ans. Pourquoi elles le font ? Par exemple, parce qu'elles font du leasing. Et donc, elles savent qu'au moment où elles louent le matériel, si elles le rendent après 4 ans, il y a une valeur résiduelle. Pourquoi ? Parce que le fournisseur va pouvoir lui donner une deuxième vie, donc c'est quand même intéressant. Mais ça change rien, elles vont quand même peut-être le remplacer plus tôt. Et donc ça quand même participe à en racheter d'autres pour eux, donc ça participe à une consommation qui continue à aller vers l'avant. Et donc c'est très compliqué parce qu'au final, mais à partir du moment où moi je décide de dire, moi j'aimerais bien passer de 4 ans à 6 ans. 4 ans à 6 ans, c'est possible. Il faut faire attention à la maintenance, il faut calculer le truc, il faut voir si c'est faisable. Si aujourd'hui une entreprise sort du bois et dit, moi je vais passer de 4 ans à 10 ans pour l'amortissement de mes laptops, elle va se planter. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où il va y avoir des casses, il y a un moment où le matériel ne sera pas compatible, on ne pourra pas faire de mise à jour, on arrive sur un problème opérationnel où en termes de gestion et le coût de la main d'œuvre fait qu'en fait, on passe trop de temps à gérer notre parc informatique et en fait, économiquement, c'est plus rentable de changer plus vite. Donc, il faut trouver la bonne balance, l'équilibre.
Justement, l'équilibre digital. Une dernière question, peut-être, Jules, pour nos auditeurs et auditrices. Une partie d'entre elles sont des étudiants et des étudiantes qui potentiellement souhaitent se renseigner sur ce sujet, lire des articles scientifiques, des publications, suivre la recherche. Est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 sources d'informations fiables vers lesquelles ils ou elles pourront se retourner ?
Ouais, alors nous on a créé un dossier numérique responsable pour l'enseignement et dans ce dossier on va retrouver plein de choses et on voit qu'il y a quelques acteurs qui sont clairement mis en avant et qui sont reconnus. Je vais penser à l'ADEME, l'agence de la transition environnementale en France et eux ils ont une librairie, la librairie de l'ADEME, ADEME, et là-dedans on va retrouver plein de trucs, notamment des petites brochures, des petits guides. Je pense par exemple à En route vers la sobriété numérique, et donc là-dedans c'est un petit fascicule, c'est imagé, c'est super bien fait, il y a une dizaine de pages, on nous explique tous les impacts, donc tout ce qu'on vient de voir on nous l'explique et puis on nous donne plein de bonnes pratiques, acheter reconditionné, acheter un petit peu moins, réfléchir à ses besoins. Mais donc l'ADEME, et puis après on a d'autres acteurs, donc nous on a aussi de la documentation sur le site web, il y a un petit MOOC où on peut se former C'est gratuit. Et en règle générale, si on cherche guide sur la sobriété numérique, on va vite trouver le Shift Project aussi. Mais le problème avec les papiers scientifiques, c'est que généralement, c'est l'état de l'art, on fait des recherches et donc c'est rarement accessible. Donc le mieux, c'est de taper mais c'est quoi la pollution numérique, c'est quoi la sobriété numérique et on trouve vite des contenus.
Merci Jules d'avoir participé à cet épisode du podcast Vers un équilibre digital proposé par la cellule Transition et le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir exploré avec nous des solutions pour tendre à l'équilibre. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.